Chers amis abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le dimanche, exactement le dimanche 7 mai, date d'enregistrement de ce podcast. Alors, je vous fais un podcast parce que le thème de celui-ci ne nécessite pas une animation vidéo. Comme ça, ça vous offre un petit peu plus de souplesse pour écouter cet enregistrement. Alors, le thème de ce podcast porte sur l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Alors, en effet, j'ai reçu des messages de beaucoup d'entre vous qui me demandaient de jeter un regard sur Uranus dans le signe des Gémeaux. Alors, il est vrai que je l'avais un petit peu abordé implicitement lors de ma grande analyse de l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, puisque comme vous le savez, on ne peut jamais traiter une planète totalement isolément, il faut toujours la replacer dans son contexte, je dirais, cosmique, et voir quelle relation la planète entretient avec ses partenaires de bureau cosmique, si j'ose dire. Donc j'avais quelque peu déjà abordé Uranus en Gémeaux, mais je ne l'avais pas totalement circonscrit. Donc aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous parler exclusivement d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Alors tout d'abord, je vais vous présenter d'une façon assez succincte la planète Uranus, puisque c'est de celle-ci dont il va être question. Alors, l'élément de cette planète est le feu. Son domicile, son signe de maîtrise, est le signe du Verseau. On dit que cette planète est exaltée en Scorpion. Personnellement, les exaltations des planètes lentes, je suis toujours très réservé, mais je n'exclus pas la valeur de cette maîtrise. Alors, la psychologie de cette planète. Eh bien, Uranus, si vous voyez le glyphe, c'est évasé vers le haut et puis ça se rétrécit vers le centre pour s'ouvrir à nouveau vers le bas. Donc, il y a chez Uranus, dans la psychologie d'Uranus, le besoin irrépressible de se démarquer pour imposer ses propres valeurs. D'où parfois une inflation du moi, dans le cas où l'astre serait vécu dans ses penchants excessifs. Par voie de conséquence, il signe un caractère individualiste, très indépendant, n'aimant pas traverser dans les clous. C'est lui qui plante les siens de clous. Forte charge donc en impulsivité et parfois en violence soudaine. Forte concentration, solidement fixée sur son objectif. Dans la tendance faible, cela peut donner du sectarisme, une étroitesse de vue, le sujet est animé d'une volonté radicale ne supportant aucune entrave, d'où son côté extrémiste. À ceci s'ajoute une passion ardente conduisant la personne à se dépasser, à se révolter, à se dresser contre l'ordre, la tradition, les acquis, etc. Cet astre fonde donc les révolutionnaires pour le meilleur ou le pire, selon les circonstances. Il y a donc, vous l'aurez compris, un refus du conformisme, des voies toutes tracées, un besoin de se frotter à l'inconnu, de découvrir, de bouleverser pour changer l'ordre des choses. Ce qui fait dans le côté constructif des pionniers, des inventeurs de génie qui font progresser l'humanité. Dans le côté négatif, ça la donne des marginaux, sans point d'ancrage, incontrôlables et animés par des actes irrationnels pouvant conduire au pire. Bien entendu, la provocation, le désordre pour faire bouger, secouer l'ordre des choses est dans les attributs d'Uranus. Il ne recule pas, il avance, c'est sa fonction. Il se sent poussé, animé par une forte conviction, comme le sentiment d'avoir une mission à accomplir. En valeur d'énergie, c'est la puissance verticale qui s'élance et trace sa propre trajectoire. On le rattache dans la mythologie à Uranos, le dieu du ciel. mais on le rattache également au mythe de Prométhée. Voilà pour la présentation très succincte des fondamentaux de la planète Uranus. Alors maintenant, passons à une vision plus globale d'Uranus sur le plan collectif, sur le plan mondial. Uranus, donc, va faire son entrée dans le signe des Gémeaux d'ici quelques petites années, hein, puisque de toute façon, il va très très vite arriver. Je vais vous donner les dates dans quelques instants. Mais la dernière fois où Uranus a fait son entrée dans le signe des Gémeaux, la dernière fois la plus proche de nous, ça remonte au 15 mai 1942. Il était à 0 degré du signe du Gémeaux, mais le 15 mai 1942, il était conjoint à Saturne. Il y avait le cycle Saturne-Uranus qui était à 0 degré des Gémeaux, au trigone de Pluton et au sextile de Neptune. 1942, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous rappeler à quoi ça correspond dans notre histoire. C'était la période de la Seconde Guerre mondiale. 1942 a correspondu également année des grandes rafles. Bref, c'est une mémoire sombre qui correspond très très bien au cycle Saturne-Uranus, qui est un cycle sec de concentration. Souvenez-vous que nous avons vécu ce cycle en carré lors du confinement et lors de la pandémie. On a eu une petite idée de ce que ces deux planètes, quand elles rentrent en contact l'une avec l'autre, ce qu'elles peuvent engendrer sur un plan collectif. Sur un plan... Alors, une chose que je voulais vous dire, que je ne vous ai jamais dite, c'est qu'il faut faire une grande distinction entre la manière, le qualitatif d'un cycle sur le plan individuel et sur le plan collectif, c'est-à-dire mondial. On n'est plus du tout dans les mêmes registres. Le Soleil, sur le plan individuel, va signer le cœur, va signer votre conscience. Sur le plan collectif, il va signer le pouvoir, le roi, l'autorité. Et il en va de même pour toutes les autres planètes. La Lune, c'est ce qui signe notre inconscient, notre part de sensibilité, de rêve. Et sur le plan mondial collectif, ça signe le peuple. Vous voyez, donc, il faut toujours avoir présent ceci à l'esprit de manière à ne pas commettre de confusion dans l'interprétation. Alors là, maintenant, je suis vraiment sur le plan strictement mondial. Et donc, le cycle Saturne-Uranus, là, qui s'était créé donc, le 15 mai 1942, au trigone de Pluton, c'était vraiment un cycle très, très sombre et très, très noir. Et le cycle Saturne-Pluton, avec le relais de Neptune, marque bien l'ordre noir qui était le nazisme. Et Saturne-Uranus, principe sec, il n'y a pas du tout de sensibilité, les affects sont bottés en touche. Bref, c'était une période froide et très très sombre qui se dessinait. Bon, là à présent, Uranus va faire son entrée dans le signe du Gémeaux, déjà le 7 juillet 2025. Uranus va humer l'ère des Gémeaux le 7 juillet 2025, puis ensuite, il va entamer de nouveau sa phase de rétrogradation. Il va donc revenir encore dans les derniers degrés du signe du Taureau. Et ensuite, le 25 avril 2026, il entrera définitivement dans le signe des Gémeaux. Donc retenez, première entrée le 7 juillet 2025, Uranus va humer l'ère des Gémeaux, puis ensuite il revient encore dans le signe du Taureau pour entrer définitivement le 25 avril 2026. Voilà pour, son transit sur le plan de la temporalité. Maintenant, quelle nature va avoir cet Uranus dans le signe des Gémeaux ? Actuellement, à l'instant où je vous parle, nous sommes au mois de mai 2023, Uranus est dans le signe du Taureau. Uranus est une planète de feu. Sa fonction, c'est l'ascension, la verticalité. N'oubliez pas qu'il est le dieu du ciel. Il est dans la terre du Taureau. C'est comme si nous avions une fusée prête à décoller, mais qui ne décolle pas encore. Voilà l'image que je veux vous donner pour que vous compreniez. On a un Uranus qui est campé sur le sol, qui veut décoller, mais il est enraciné dans la terre du Taureau. Autrement dit, on a un Uranus qui vit actuellement une frustration. Il est obligé de rester à terre, alors que sa fonction, c'est de s'élever, c'est de tracer. d'ouvrir une voie. Donc, il est actuellement contenu. Et quand il va entrer dans le signe du Gémeaux, qui est un signe d'air, qui est, je vous rappelle, le signe de Mercure, alors là, Uranus va respirer. Il va trouver de l'air, justement ce dont il a besoin. Uranus, planète de feu, dans un signe d'air, l'air et le feu sont des éléments compatibles. L'air attise le feu. Donc Uranus va être en pleine possession de ses moyens, il va respirer, il va se sentir totalement libre et à son aise d'évoluer. Et en plus, sous la maîtrise de Mercure, Gémeaux qui marque la mobilité, la rapidité, la vélocité, bref, on va avoir un Uranus qui va être fou de joie. Il va enfin se dégager de la pesanteur de la terre du taureau. Nous aurons donc cet Uranus en pleine liberté d'expression, et c'est le cas de le dire. La liberté d'expression, parce qu'on est dans le signe des Gémeaux, qui est le signe de la parole, du verbe, de la transmission, de la communication, du logos, si j'ose dire. Alors, vous savez qu'en astrologie, il faut toujours faire intervenir les maîtrises, hein. Donc on va avoir un Uranus dans le signe effervescent, pétillant, comme on dit, de l'éternelle adolescence, qui est le signe des Gémeaux, le signe de Mercure. Donc on va avoir un Uranus qui va, être tout à fait dynamique. On va avoir un Uranus nerveux, prompt, rapide. Et évidemment, le signe des Gémeaux, c'est le signe qui régit tout le monde de la communication, le monde des médias, le monde de la transmission, pour résumer ma pensée. On peut donc s'attendre, puisque Uranus marque les changements, il marque les révolutions, les bouleversements, c'est l'éruption, c'est la part d'inconnu qui nous dégringole dessus, ne l'oublions pas. Gardons toujours présent à l'esprit la part d'inconnu qui se dresse toujours devant nous, et Uranus est précisément la planète qui nous confronte à cette part d'inconnu qui soudain surgit. Hein, c'est pour ça que dans le tarot de Marseille, Uranus est assimilé à la Maison Dieu, cette fameuse tour foudroyée. Donc, tout le domaine de la communication va être totalement, totalement révolutionné. C'est-à-dire que nos moyens actuels que nous avons pour communiquer, Internet, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, on peut s'attendre. Durant la traversée d'Uranus dans le signe des Gémeaux, qui va durer donc 7 ans, hein, à ce que ce monde-là de la technologie, ce monde des multimédias, connaisse des bouleversements et des révolutions radicales. Car Uranus et la radicalité sont synonymes. Donc tous les outils que nous avons actuellement vont connaître un changement. L'Internet que nous connaissons va être bouleversé. Tous nos moyens de communication vont connaître une révolution. Le monde de la parole, le monde des médias va être totalement chamboulé. Donc, gardez à l'esprit que, également, cet Uranus-là dans le signe des Gémeaux, puisqu'il est dans le signe de la communication, la liberté d'expression va devenir également un enjeu, hein, puisque Uranus, c'est la liberté, l'émancipation, l'indépendance, hein. Rappelez-vous qu'il est rattaché au mythe de Prométhée. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication du mythe de Prométhée, je vous laisse le soin de regarder vous-même, mais Prométhée, c'est vraiment celui qui en a marre de rendre des comptes à Zeus, et il veut être libre, faire ce qu'il veut, et lui tend un traquenard, et lui ravit le feu divin. Bref, je vous ai fait un résumé caricatural. Il ravit le feu divin pour le donner à l'homme et lui dire « tu es ton propre Dieu ». Donc, il a une valeur d'émancipation. Il désenchaîne, il libère. Et donc, il va libérer la parole. Donc, la liberté d'expression va devenir un enjeu, un combat. Il va y avoir là aussi quelque chose qui va se manifester sur ce plan-là. On sait très bien que la liberté d'expression actuellement, elle est plus ou moins bâillonnée. Et quand je dis plus ou moins, c'est un doux euphémisme. Hein. On sait très bien que tous les journaux sont complètement sous contrôle. Bref. Donc là, ça va certainement être, dans les années qui viennent, un enjeu et une lutte capitale. Enfin, Uranus dans les Gémeaux, eh bien, c'est aussi la jeunesse. Et oui, c'est l'adolescence, c'est la jeunesse. Uranus, planète de la révolution, rentre dans ce signe des Gémeaux. On peut s'attendre peut-être aussi à des événements nouveaux, inattendus, qui viendront de la jeunesse. Un élan nouveau qui viendra des jeunes générations. Les enfants qui naîtront durant cette traversée d'Uranus en Gémeaux, par exemple, eh bien, il sera intéressant de suivre leur évolution parce qu'ils seront certainement porteurs d'éléments que pour l'instant nous ne pouvons pas encore traduire puisque nous ne sommes pas porteurs. Enfin, tout au moins moi qui vous parle, je n'ai pas Uranus en Gémeaux. Mais tout au moins, ces enfants qui naîtront là durant ces années vont être porteurs de cette signature planétaire en Gémeaux, donc ils seront porteurs d'une nouvelle façon de communiquer, de parler, même de penser, puisque n'oubliez pas que Mercure régit aussi la pensée, la réflexion. Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur le côté transformation, bouleversement dans le monde des communications, des multimédias? Eh bien, parce que l'importance toujours des maîtrises, Uranus en Gémeaux va avoir, lui, Uranus maîtrise sur Pluton, parce que Pluton, à ce moment-là, à partir du 25 avril 2026, sera rentré en Verseau. Or, Uranus est la planète qui a maîtrise sur le signe du Verseau. Par conséquent, étant donné que Pluton sera en Verseau, Uranus sera maîtrise sur Pluton. Pluton va être obligé de s'adapter aux diktats d'Uranus. Et puis Uranus va être obligé, et puis le Verseau, donc Uranus va être obligé d'accepter également la présence de Pluton. Et Pluton, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est aussi la mort et la régénération. Et Uranus et Pluton vont former un trigone à ce moment-là, qui est un aspect harmonieux. Autrement dit, ils vont pactiser, ils vont être très très bien ensemble. On va avoir, quelque part, Prométhée et le docteur Faust, si j'ose dire. Je fais des grands raccourcis avec les mythes. Le docteur Faust est un mythe moderne. Vous avez tous lu, enfin, entendu parler du Faust de Goethe, d'où l'intelligence faustienne qu'on rattache à Pluton et au signe du scorpion. Donc Uranus du Gémeaux va envoyer un trigone à Pluton en Verseau, avec le fait qu'Uranus aura contrôle également sur Pluton. Or, Pluton, c'est le bouleversement total, c'est la mort et la renaissance totale. Donc on peut s'attendre là à des bouleversements radicaux et absolument, et qui vont être spectaculaires, spectaculaires. Évidemment, ça touchera tout ce qui va être lié au domaine de Pluton. Donc là, je vous renvoie au podcast que j'ai fait sur Pluton en Verseau. Je ne vais pas revenir dessus parce que je vais me répéter. Et puis, ce n'est pas la thématique de mon podcast. Mais maintenant, je vais aller plus loin dans mon propos. Parce que Uranus-Pluton, évidemment, vont être double sextile de Neptune en Bélier. Et Neptune, c'est le côté universel. Uranus, c'est le singulier. Neptune, c'est le pluriel. Uranus, c'est je et Neptune, c'est nous. Donc Uranus, Neptune vont être en sextile avec également Pluton. Donc tout ceci va avoir un effet sur le plan mondial. Et Neptune, c'est la diffusion, c'est la propagation. Donc toute cette révolution va être à l'échelle planétaire. Ça ne va pas être uniquement un pays, un petit bloc, ça va être planétaire. Cela va se répandre. Ça va avoir une valeur de contagion. Alors Uranus, dans le signe des Gémeaux, eh bien maintenant je viens au cœur de mon propos, ça va être également le développement de plus en plus important de l'intelligence artificielle, du transhumanisme et du métavers. Alors oui, je sais, cela fait très très longtemps que j'en ai parlé dans mes interventions vidéo. Pour ceux qui me suivent, vous avez noté que j'en ai souvent parlé. Et je vais ouvrir une petite parenthèse. Il y a maintenant, ça fait maintenant 12 ans, je me souviens que, Je vous parle un petit peu de moi, mais ce n'est pas hors sujet, hein. Vous allez comprendre les choses. Et la synchronicité qu'il existe quelque part aussi entre soi et les événements. Je me rendais à ce moment-là sur la tombe de ma mère et j'étais en gare et je vois un livre qui s'appelle « La mort de la mort » du docteur Laurent Alexandre. Alors moi qui ai une forte dominante plutonienne dans mon thème, vous imaginez qu'un tel titre, ça a tout de suite titillé ma curiosité. Je me suis donc emparé de ce livre, je l'ai acheté et je l'ai lu dans le train. Et à ce moment-là, ce que j'ai lu là m'avait complètement sidéré, puisque le docteur Alexandre, en 2011, parlait non plus d'un homme réparé, mais d'un homme augmenté. Et ce que j'avais vu là m'avait sidéré, m'avait semblé dément, et je m'étais fait la réflexion suivante, oui, ce monde aura vraisemblablement lieu un jour, mais je ne le verrai pas, parce qu'avant que ça arrive, il va s'écouler des siècles, des siècles et des siècles. Mais reste qu'une petite brèche s'était ouverte en moi. Et depuis 2011, cette année-là, je n'ai cessé de jeter un coup d'œil sur ce pan de notre histoire collective, sur cet aspect scientifique, à savoir le transhumanisme, la révolution numérique. Et alors, à ma grande stupéfaction, moi qui me disais à ce moment-là que ce monde aurait vraisemblablement lieu, mais pas de mon vivant, j'ai vu à quelle vitesse ce monde allait évoluer. Et quand j'ai observé le ciel de 2026, en réalité, les trois planètes landes seront déjà en aspect exact dès 2025. Le 7 juillet 2025, nous aurons Uranus, Pluton, Neptune en aspect exact à 1 degré d'orbe. Déjà, hein. Ils seront à 1 degré. Neptune sera 1 degré du signe du Bélier, Uranus à 1 degré du signe des Gémeaux et Pluton à 1 degré du signe des Verseaux. Nous aurons déjà l'amorce de la configuration. Puis ensuite, les planètes vont de nouveau rétrograder. D'ailleurs, à ce moment-là, le 7 juillet 2025, c'est pas le 7 juillet 2025, veuillez m'excuser, ça sera le 7 septembre 2025, pardonnez-moi. Le 7 septembre 2025, vous vérifierez de votre côté, les trois planètes lentes seront en aspect exact. Elles seront toutes les trois à 1 degré de leur signe respectif, Bélier, Gémeaux, Verseau. Mais elles seront toutes les trois en phase de rétrogradation. Bon. Et donc, disais-je, quand j'ai vu ce ciel-là, je l'ai immédiatement mis en adéquation, en corrélation, avec ce monde de la haute technologie, ce monde de l'intelligence artificielle et du transhumanisme. Ça m'a immédiatement sauté aux yeux, cela correspond parfaitement. Pluton, Verseau, on est dans le mythe du golem. Uranus, en Verseau, le monde de la communication, de la pensée, de la réflexion, le tout relié à Neptune sur le plan mondial. Et on rajoutera la conjonction Saturne-Neptune qui peut marquer la naissance d'un nouvel ordre mondial à tout ça. Et ça m'a encore davantage accroché et invité à explorer ce monde-là. Donc depuis 12 ans, je n'ai cessé de lire des ouvrages, des études sur l'évolution de cette technologie. Et vous remarquerez que depuis que Pluton vient de faire son entrée en Verseau, là, il va y séjourner 3 mois, puis après il va revenir en Capricorne pour rentrer définitivement en Verseau en 2024, puis en 2025, c'est clair, il y est. Vous avez quand même remarqué que l'on parle de plus en plus de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas un article, une semaine, un quotidien qui ne traite de ce sujet. Il y a là une adéquation, une synchronicité tout à fait troublante. Et ce n'est pas un hasard si le chat GPT a été mis en place et qu'il est libre d'accès. Parce qu'on commence déjà à nous conditionner, à nous habituer à la présence, à l'utilisation de cet outil. Pas du tout un hasard. Et ça correspond au moment où Pluton est à 0 degré du Verseau. Et donc, cette intelligence artificielle, elle va aller, vous allez voir, à une progression et une évolution stupéfiante. Ça va être, je dirais, exponentiel. Regardez bien ce qui va se passer. Et évidemment, comme c'est relié à Neptune, ça va réorganiser la planète entière et tout le fonctionnement de la société. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, bon an, mal an, bon gré, mal gré, on va être confronté à ce monde. Alors moi, je veux bien les grands discours spirituels. Oui, mais bon, on a une âme, on va pouvoir quand même faire front commun pour éviter ce monde. Non, ce monde-là, on ne l'évitera pas. Il va régenter et réorganiser le monde du travail et la société. Et ça, on va y être confronté. Ensuite, le rapport qu'on a avec sa propre âme, ça nous regarde. Ça, évidemment, la dimension spirituelle, nous l'avons en nous. On ne peut pas venir nous piller notre âme, je suis bien d'accord. Mais moi, mon propos, il est très... Là, pour le coup, je vais dire que je vais être très matérialiste dans mon intervention. Moi, ma vision, elle est quel monde, quel type de société on va avoir devant nous. C'est ça. Et ce monde de la haute technologie, de l'intelligence artificielle, de la robotique aussi. Parce qu'on est en train de nous dire que l'intelligence artificielle va détruire, va surtout s'en prendre aux élites, parce que ça va toucher la classe intellectuelle en premier. Vous savez que par exemple, on a soumis le ChatGPT à un test, un examen de polytechnique, un examen extrêmement compliqué, et le ChatGPT l'a résolu en quelques secondes. Et en plus, aujourd'hui, si vous faites le test, moi j'ai été vérifié, hein, il ne fait aucune faute d'orthographe, aucune faute de syntaxe, aucune faute de grammaire. Qui aurait pensé, il y a quelque temps, qu'une intelligence artificielle serait capable d'arriver à ça? Il y a 3 ans en arrière, c'était invraisemblable. Hein. Et bien aujourd'hui, c'est en place. Et comme c'est génératif, c'est une espèce de machine, une outre qui se nourrit. Alors évidemment, on me rétorquera que c'est une machine qui a besoin de l'homme, puisque c'est l'homme qui la nourrit. Eh bien oui, c'est bien là le paradoxe. C'est l'homme qui, dans son esprit génial, est en train de créer une machine qui va peut-être, au fil du temps, être son égal et peut-être même le dépasser. On est dans le mythe du golem, là, dont je parlais lorsque j'ai fait mon podcast sur Pluton en Verseau. Sauf que le Rabbi Love, lui, il a la possibilité de retirer la première lettre du mot Emmet, le E, qui veut dire, et de laisser le mot Met, qui veut dire mort, et de détruire sa création. Mais nous, là, on va créer un produit, une intelligence, qui va régenter notre société. Donc on ne pourra pas la démolir. Vous vous imaginez bien qu'un chef d'entreprise, quand il va se rendre compte qu'il peut avoir une note de service parfaitement rédigée en une nanoseconde, avec un appareil qui ne fait pas grève, qui ne tombe pas malade, qui ne prend pas de vacances, qui ne conteste jamais, vous imaginez bien que les chefs d'entreprise ils vont vite faire le calcul et qu'il va y avoir des suppressions de postes. Et même des tâches, parce qu'en prétendant que les tâches vont être épargnées par l'intelligence artificielle, mais pas du tout, parce qu'il va y avoir la robotique qui va arriver derrière. Actuellement, Amazon, dans ses entrepôts, ce sont des robots qui vont chercher les colis. Voilà. Donc, ce monde-là, il va être devant nous, on ne pourra pas passer à travers. Donc, quel type de société on va avoir? Moi, c'est ça, ma interrogation. Il va y avoir une révolution dans le monde du travail, évidemment. Alors, nous-mêmes, au milieu de tout ça, par rapport à nos valeurs, parce que nous avons une mémoire référentielle, évidemment, mais penser que les enfants qui vont naître en 2025 ou 2026, ils vont naître avec ce cycle planétaire en eux. Donc ces enfants qui auront 20 ans au mi-temps du siècle, hein, en 2046-2050, ces enfants-là vont être porteurs d'un nouveau paradigme. Et ils vont avoir, ça va être les extraterrestres, ils vont ouvrir ce nouveau monde. C'est-à-dire que les questions que nous nous posons, eux, ne se les poseront pas parce qu'ils auront déjà implicitement les réponses. Et que ce monde de la haute technologie qui va se mettre en place, ça va être leur monde. Ils vont grandir dans ce monde-là. Donc, ça va être une génération qui va forcément avoir les clés et qui trouvera les bonnes serrures. Nous, actuellement, soit on a les clés, et encore, j'en doute, mais on ne trouve pas les serrures, ou alors on voit les serrures, on n'a pas la clé. Voilà, il faut l'accepter. C'est ce qu'on appelle les transitions et les évolutions. Alors maintenant, nous, notre grande question, c'est comment nous positionner dans ce monde-là? Parce que, évidemment, la révolution technologique avec un Uranus en Gémeaux pendant 7 ans et puis un Pluton en Verseau qui va traverser le signe du Verseau pendant 19 ans, il va s'en passer. Hein. Et une chose aussi que je tiens à vous signaler, Uranus est le dieu du ciel, c'est la fusée, ça va être aussi la conquête spatiale. Il va y avoir là aussi une révolution et on sait que Elon Musk travaille beaucoup là-dessus. Hein. Elon Musk a été effrayé, le pauvre petit, par les capacités de l'intelligence artificielle et qu'a demandé un délai, un break. Non, mais ça prête à rire. Vous voyez, même lui a été dépassé par sa machine. On est bien dans le mythe du golem. Hein. Et il a demandé de faire une pause. Quelle pause, mon pauvre petit? T'as créé un engin qui est en train de te dépasser, mon pauvre petit bonhomme. Vous voyez, donc on est là devant des espèces d'apprentis sorciers. Parce que Uranus, c'est aussi l'apprenti sorcier. Hein. On est devant des gens qui créent quelque chose, une machine, ils sont tout contents, mais on a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte des conséquences que ça va avoir. C'est en même temps très, très inquiétant. Hein. Parce que les Elon Musk et compagnie, ils ont une puissance financière énorme et ils font plus ou moins la loi à travers ce monde. Alors, donc, il faut que nous nous préparions à l'entrée dans ce nouveau monde et ce nouveau paradigme. Le Verseau, le signe de la fraternité, puisque le soleil qui marque l'ego, il est en exil, hein, en Verseau, hein, vous me suivez. Hein. Verseau, lion, soleil, Uranus. Ben oui, mais quelle nouvelle fraternité avec un Pluton à l'intérieur? Quelle va avoir la tête de cette nouvelle fraternité avec ce Pluton à l'intérieur? Il va y avoir là aussi du... Ben, comment vous dirais-je? On peut s'attendre à des moments difficiles. On peut s'attendre à des moments également malgré tout sombres, hein, parce que Pluton tout de même, c'est mort et renaissance. Hein. C'est une planète qui nous met à l'épreuve, qui nous confronte à la barrière de la vie et de la mort. C'est pour ça que Pluton, c'est la planète de l'initiation dans son acception supérieure. Parce que j'entends toujours « Ah ben oui, mais Pluton, c'est pas que la mort, c'est pas que la destruction, c'est pas que la boue. » Oui, ben bien entendu que ce n'est pas que ça. Mais qui va avoir aujourd'hui l'impudence de me dire qu'on vit le Saturne supérieur, hein, le Saturne de la sagesse, de la réflexion, de la maîtrise? On est dans le Saturne justement de la pauvreté, de la réification, de la sécheresse. Qui va me dire qu'on vit l'Uranus de la progression, de l'évolution? On est dans l'Uranus du désordre actuellement. Qui va me dire qu'on vit le Neptune de la haute spiritualité? On est dans le Neptune des fausses spiritualités, de la confusion, du mélange des genres, de l'opacité. Et qui osera me dire qu'on vit le grand Pluton aujourd'hui, tout ça sur le plan collectif, hein, s'entend, qu'on vit le grand Pluton, hein? Non, on n'est pas dans le Pluton, le grand initiateur, le gardien des grands mystères. On est dans le Pluton de la boue, le Pluton de la guerre, de la dégénérescence. Je ne suis pas en train de vous faire un tableau noir, il suffit de regarder objectivement ce qu'il y a autour de nous. Voilà. Donc, voilà, moi, mon propos et ma grande question, c'est cette nouvelle société qui est autour de nous. Là, il y a mon chat à côté de moi qui s'apprête à sauter à côté du micro. Je crains le pire en parlant de Pluton et d'Uranus, justement. Ben voilà, ça ne va pas louper. Si vous entendez un cafouillage, ça sera lui. Hein. Voilà. Donc, ma question, c'est, ben voilà, il est arrivé là. T'es gentil, tu ne me fais pas tomber mon micro, voilà. Et donc, il faut donc que, comment vous dirais-je, on est en train de vivre la fin d'un monde fini, en quelque sorte, hein, comme l'avait dit Albert Jacquard un jour. Hein. Et il faut qu'on se prépare, tous autant que nous sommes, à cette révolution énorme qui va avoir lieu et qui se prépare devant nous. Énorme révolution. Hein. Et donc, vous m'excusez, hein, ma pensée est assurée parce que j'ai essayé de négocier avec mon chat de manière à ce qu'il ne me fasse pas tomber mon micro. Voilà, veuillez m'excuser. Et donc, disais-je, on est là, on arrive petit à petit à la frontière de ce nouveau monde. Alors, je reviens à Uranus, hein, parce que je ne me suis pas égaré en fin de compte dans mon propos. Hein, j'ai voulu vous traiter ça en globalité. Donc Uranus également en Gémeaux, pardonnez-moi. Donc sous la maîtrise de Mercure, ça va être aussi notre façon de penser et de concevoir ce nouveau monde. Comment on va penser à notre propre petit niveau individuel, hein, penser et concevoir ce nouveau monde. Alors là, ça va nous renvoyer à notre propre thème astrologique. Quel secteur cet Uranus en Gémeaux va-t-il transiter? Et quel aspect va-t-il former dans notre thème de naissance? C'est là où on a la clé. On a une amorce de réponse. Comment on va réussir, nous, à se positionner dans ce monde? Parce que, vous savez, Uranus a un côté sectaire, hein, très étroit. Il va y avoir ceux qui vont foncer billes en tête dans ce monde-là. Et qui ne verront que par ce monde-là. La haute technologie, l'intelligence artificielle, ils vont trouver ça génial. Et il y aura un côté génial, on ne peut pas le nier. Et puis il y a ceux qui vont le rejeter, ce monde-là, qui ne vont pas en vouloir. Simplement, ces gens-là qui ne vont pas en vouloir, ils vont être confrontés à ce monde-là. On ne peut pas aller se réfugier en pleine forêt, hein. Walden dans les forêts, hein, je sais bien, mais malheureusement, on va avoir du mal à faire ça. Hein. On est tous plus ou moins liés à cette société, à ce monde-là, on a une activité professionnelle, tous autant que nous sommes, et c'est ça qui nous lie à ce fonctionnement-là de société. Voyez. Donc, on va être... quelle singularité allons-nous développer pour arriver à nous adapter à ce futur monde? Ça va être les grandes questions qui vont se poser à nous. Alors c'est un enjeu en même temps absolument excitant, hein. C'est un enjeu extrêmement intéressant, parce qu'on va connaître, nous, ce changement de paradigme, on va le voir se mettre en place progressivement. Hein. Mais en même temps, ça va être une progression rapide, hein. C'est ça qui est impressionnant, parce que Uranus en Gémeaux, c'est vif, c'est rapide, c'est, pour employer un mot à la mode, c'est speed, ça ne perd pas de temps. Hein. Et Saturne, qui marque le temps, rentrera en bélier à ce moment-là. Et Saturne en bélier, il est en chute. Hein? Ne l'oublions pas. Saturne qui marque la tradition, le passé, l'histoire, il va être en bélier, il va être en chute. Donc ça veut dire qu'il y a une partie du monde qui va irrémédiablement s'effacer. C'est clair, d'une façon ou d'une autre, avec la conjonction de Neptune, ça se dématérialise. C'est intéressant, la conjonction Saturne-Neptune. Dématérialisation par Neptune et ossification, matérialisation par Saturne. On a les deux. Sauf que Saturne va être en position faible en bélier. Voilà. Il n'emporte pas la bataille. C'est Neptune qui tend à l'emporter, je dirais. Bon. Et Neptune sera dans le signe de Mars. Donc, un monde des civilisations sous la maîtrise de Mars. Et Mars, c'est du feu. Uranus, c'est du feu. Pluton, c'est aussi du feu, hein, c'est le feu des enfers. On dit que c'est de l'eau, mais moi je dis que l'eau de Pluton, c'est de l'eau de vie. On croit que c'est de l'eau, puis quand on la boit, on se brûle. Hein. Donc voilà. Donc on a l'émergence de ce nouveau monde qui arrive. Et pour nous, petits bipèdes, qui sont quand même en train de créer ce monde-là, puisque ce sont des bipèdes, hein, qui créent quand même ce futur monde, c'est ça qui est absolument invraisemblable, il va y avoir des questions d'éthique qui vont également se poser. C'est comment on va arriver à régenter tout ça de manière à ne pas tomber dans les excès et de vouloir tellement rivaliser Dieu, hein, puisque le projet du transhumanisme, c'est ça. Hein, la longévité, la fin de la vieillesse et puis la fin des maladies. Hein. C'est un projet complètement fou, cette espèce de projet d'immortalité. Hein. Personnellement, moi, ce qui donne sens aussi à ma vie, c'est que je suis mortel. Et je sais que je n'ai pas un temps infini devant moi. Quel ennui de savoir qu'on aurait un temps infini devant soi. Moi, j'avoue que ça me laisse un petit peu... Je ne comprends pas, moi. Quel ennui de savoir qu'on aurait une vie éternelle devant soi. Je ne sais pas. Moi, c'est mon rapport au temps qui me permet de travailler, d'avancer. Vous savez, cette confrontation au temps à Saturne, c'est ça qui nous permet d'avancer sans arrêt. Et puis au fil du temps, on gagne un petit peu en maturité, en réflexion, en sagesse. Mais là, ce côté éternité, immortalité, bah, Saturne, il explose. Que devient le temps dans tout ça? Franchement, donc c'est un projet qui est complètement dément, quelque part. Mais voilà, c'est l'aspiration de l'homme. Et le transhumanisme, c'est ce vers quoi il tend. les Luc Ferry et Laurent Alexandre ont beau dire qu'il y aura une éthique et que de toute façon, surtout Luc Ferry, c'est très curieux la position de Luc Ferry, il est assis le cul entre deux chaises. Hein. Quand on entend le docteur Alexandre dire qu'il va falloir habituer les enfants à vivre et à travailler avec une intelligence artificielle, moi je vais vous dire, ça m'effraie. Ça m'effraie totalement. Et l'arrivée d'Uranus en Gémeaux, qui est le signe de l'adolescence, m'inquiète beaucoup parce qu'on va confronter les enfants très jeunes à cette intelligence artificielle dont je me demande où va être leur part de réflexion dès l'instant où ils auront juste à rentrer une question et la machine va leur donner la réponse toute faite. Quelle va être leur part d'action, leur part d'apport personnel dans ce futur monde? Là aussi, il y a une question importante qui se pose. Et le docteur Laurent Alexandre, ça n'a pas l'air de l'inquiéter du tout. Alors évidemment, c'est le futur monde dans lequel les générations qui naîtront en 2026 vont être porteuses. Seront porteuses, évidemment. Alors, vous voyez, c'est à la fois passionnant, en même temps inquiétant. Ça va demander de notre part une très grande vigilance, un appel à une haute conscience. Est-ce que la conjonction Saturne-Neptune, qui va être la clé de voûte de ces grandes planètes, de ces grands cycles planétaires, pardonnez-moi, va nous apporter ce surplus de conscience? Vous savez, moi, je vais vous dire franchement, je n'ai jamais cru au sursaut d'une conscience collective. Jamais, jamais, jamais. J'espère me tromper, mais je n'y crois pas. Il y aura des prises de conscience individuelles qui vont peut-être se réunir et créer des poches, des groupes, des groupuscules de résistance. Oui, il y en aura, mais bien entendu. Sur le plan, je dirais, mondial, au point de créer une révolution à l'échelle planétaire, je n'y crois pas du tout. Non, il va y avoir une révolution à l'échelle planétaire avec un nouvel ordre mondial. Là, oui. Et ça va être quelle place on va occuper dans ce nouvel ordre mondial. Comment on va préserver nos valeurs? Je crois que nos valeurs, elles sont avant tout intérieures. Elles sont liées à ce que nous sommes intrinsèquement. Et ça, on ne pourra pas venir nous les voler, hein, ce que vous avez acquis, votre sensibilité, votre âme, même si ce mot est un petit peu, je sais bien, il est très neptunien, hein, ce mot. Hein. Voilà, mais tout ça, on ne pourra pas vous le ravir, hein, c'est à vous. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à nourrir, à entretenir cette part d'humanité, de spiritualité. Quand je dis de spiritualité, j'entends dans le sens large du terme, hein, spiritualité, spirit, ce qui est lié à l'esprit, hein, à la pensée. Il va falloir vraiment cultiver, conserver tout ça, de manière à ce qu'il n'y ait pas une déperdition rapide de tout cela. Hein. Puisque évidemment... ce qu'on appelle le cyborg, la fusion du robot et de l'être humain, ça existe déjà. Hein. On en parle très très peu, mais il y a des expériences qui se font déjà sur ce plan-là, hein, sachez-le. Hein. Il suffit de vous documenter, d'aller faire des recherches là-dessus, et verrez, ça existe déjà, il y a déjà des expériences de fait. Il va y avoir aussi une progression avec ce Neptune en bélier sous le signe de Mars. Vous devez bien vous douter que toute cette évolution technologique va aussi servir l'armée. Il va y avoir le développement de nouvelles armes terribles, d'une efficacité épouvantable avec un Neptune en Verseau. Vous imaginez la précision, l'efficacité que les nouveaux armements vont avoir. Là aussi, on rentre vraiment dans un monde nouveau. Alors, il est vrai qu'il va y avoir un équilibre qui va s'installer, je pense, sur le plan mondial. Souvenez-vous, lors de la pandémie, il y avait eu la conjonction Jupiter-Saturne-Pluton fin Capricorne au carré d'Uranus avec des semi-aspects, je dirais, semi-carrés et de Neptune qui s'en mêlaient. On a vu le déséquilibre que ça a apporté sur le plan planétaire avec la pandémie et toutes les conséquences qui en ont découlé. 2026, toutes les planètes vont être alignées de façon harmonique. Donc il va y avoir un équilibre. Je pense que on va arriver dans ce monde multipolaire. Je vous renvoie à un article que j'avais écrit là-dessus. Il va y avoir un équilibre qui va s'établir. Sinon, on va arriver à une catastrophe planétaire terrible. Donc je pense que tous les grands de ce monde, tous les financiers, n'est-ce pas, nos grands penseurs, n'est-ce pas, qui pensent que par la matière, vont se dire qu'ils n'ont rien à gagner à faire exploser la Terre. Donc ils vont se mettre autour d'une table et ils vont se mettre d'accord sur des intérêts en commun. Après nous, comment on va, les cartes vont être redistribuées, on verra bien. Mais il est possible que le cycle Saturne-Neptune apporte cet équilibre. Saturne-Neptune, c'est un cycle très sombre. On est en bas, ce sont les démunis, la majorité silencieuse qu'on veut étouffer. Elle va bénéficier de l'apport harmonique des planètes Uranus et Pluton. Donc il est possible qu'il y ait un mieux dans la vie des personnes démunies aujourd'hui qui ont du mal à vivre, qu'on établisse un équilibre pour que l'économie et que la machine continuent de tourner. Eh bien évidemment, ça sera toujours dans ce but-là. Vous savez, on va les maîtres mots, c'est pour votre bien et pour votre sécurité. On n'a pas fini de l'entendre, hein, tout ça. Bon, donc, ça va être les mots clés. Alors, il va y avoir un équilibre qui va s'instaurer. Mais maintenant, quelle va être la valeur humaine de ce nouveau monde? Moi, c'est la question que je me pose. Neptune, qui est la planète de l'empathie, des émotions, de la sensibilité, elle va être dans le signe du bélier. Ça va être une sensibilité à fleur de peau, une humanité martienne, hyper réactive. Et également, dans le signe du bélier, avec un Neptune, quelle va être cette nouvelle toison d'or vers laquelle l'humanité va partir? Parce que le bélier, c'est le mythe de la toison d'or. Neptune va être à l'intérieur. Vers quelle nouvelle toison d'or l'humanité va-t-elle partir? Quelle va être sa nouvelle conquête? On peut penser que la nouvelle conquête, ça va être l'espace. C'est pour ça qu'il y a autant de recherches qui sont faites. Parce qu'ils cherchent à trouver une autre vie sur une autre planète. Parce que quand on voit dans quel état on a mis la planète, et le côté écologique, la nature, c'est la planète Neptune. J'entends l'écologie dans l'acception noble du terme et pas cette écologie politicienne actuelle qui est invraisemblable, qui marche complètement à côté de ses pompes. Là aussi, cette question sur ce plan-là va se poser. Donc on a des enjeux devant nous qui sont considérables. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais arrêter ici mon bavardage. Hein. Je suis parti un petit peu en roue libre. J'espère que j'étais à peu près assez clair avec vous. Je me suis laissé aller à ma libre inspiration. Je me suis laissé porter. Moi, je regarde ce nouveau monde avec une grande curiosité. Je vous dirais que je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis, moi, comme les Grecs, je suis un tragique. Je vois les choses. Alors, tragique dans les Grecs, c'est ça. C'est la, on va dire, la dialectique entre le pessimiste et l'optimiste. Hein. Je vois ça, j'essaye d'avoir la vision la plus froide possible. J'essaie de voir les côtés positifs et puis les côtés qui vont être absolument critiques dans ce nouveau monde-là. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur cet Uranus en Gémeaux. J'ai dû forcément oublier des choses, hein, parce que, vous savez, hein, le symbole est polymorphe, il est d'une grande richesse. Et puis, il y aura forcément l'irruption de choses nouvelles qu'on ne peut pas du tout traiter aujourd'hui. Hein. Rappelez-vous, reportez-vous 33 ans en arrière. Internet n'existait pas, il arrivait à ses premiers balbutiements, le smartphone n'existait pas. Regardez en l'espace de 30 ans l'évolution insensée qu'on a connue. Hein. Regardez comment Internet a complètement reconfiguré le monde. Hein, et puis ce qu'on appelle les réseaux de communication ont changé aussi les rapports humains. Voyez comment ça a été vite, comment ça s'est installé dans nos vies et comment nos vies sont rattachées et dépendent de ça. Voyez, je vous fais actuellement cet enregistrement grâce à Internet et aux technologies nouvelles des multimédias. Il y a 30 ans en arrière, je n'aurais pas pu vous faire ce podcast. Les podcasts, d'abord, n'existaient pas. Et là, il va y avoir encore des nouveaux outils qui vont sortir. Il va y avoir une révolution prodigieuse sur ce plan-là. Mais après, reste à savoir comment ces créations nouvelles vont être utilisées, un, pour organiser la société, hein, et nous, de notre côté, ce que nous allons en faire. Voilà, c'est toujours la même chose. Et ça nous ramène à notre propre conscience. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un très très beau dimanche, j'arrête ici mon bavardage sur Uranus dans le signe des Gémeaux, Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.